Santé.
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 C'est bon pour la 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 santé. Et oui, c'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Marianne Paquette qui vous accompagne au cours des 60 prochaines minutes avec grand plaisir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à l'émission Les bienfaits de l'art-thérapie pour les personnes atteintes d'Alzheimer, on va en discuter avec Pascal Godbout, elle est art-thérapeute à la Société Alzheimer de Montréal. Aussi, José Rochon, chargé du projet Accex Plus, qui est un nouveau portail pour les personnes qui vivent en situation de handicap et qui a pour but de leur fournir des ressources nécessaires en matière de sexualité, sera là pour nous présenter ce nouvel outil. Aussi, mai est le mois de la parole et de l'audition. On fait un portrait de la situation avec Agathe Tupula-Cabola. Elle est orthophoniste, auteure et directrice générale de la clinique ProAction. Et dans quelques instants, à peu près dans 8 minutes, comment mieux comprendre l'encéphalomyélite myalgique ou en termes plus simples ou peut-être plus connus pour vous, le syndrome de la fatigue chronique. Dr. Claudine Prudhomme est vétérinaire. Elle vit avec la maladie et elle sera là pour nous parler de sa réalité avec une maladie qui est encore très méconnue et stigmatisée. Tout ça, mais dans quelques instants, avant la revue de presse de Christiane Campagna. Bonjour Christiane.
Bonjour Marianne.
On parle d'un sujet d'actualité. Ce midi, bien sûr, les inondations qui touchent plusieurs personnes ici au Québec. On pense à eux ici au Canal M. Et également, on ne pense pas toujours aux impacts sur la santé. Inondation, eau égale souvent, malheureusement, moisissure.
J'imagine qu'on en entendra encore plus parler au cours des prochains jours et semaines quand on sera dans l'après-catastrophe. Mais déjà, TVA Nouvelles s'est penchée sur la question. Et si l'eau s'est infiltrée dans votre domicile en raison des inondations, que votre sous-sol a été touché, vous aurez malheureusement à composer avec les moisissures. Ils ont consulté une microbiologiste et présidente d'Hermax Environnement, Mme Solange Lévesque. La moisissure a besoin d'eau et d'humidité pour se développer, donc tous les matériaux poreux sont à risque. On pense au gypse, à l'isolant, aux meubles tels que les divans. Dès que ça a touché l'eau et que ça a imbibé, il faudra s'en débarrasser une fois que l'eau se sera retirée. Et elle souligne que parfois, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'odeur, qu'il n'y a pas de moisissure, et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de signe non plus. Une fois que par contre, côté odeur, une fois que tout est séché, si ça sent encore l'humidité dans la maison, il faut se méfier, ne pas hésiter à faire un petit trou dans le gypse pour voir et inspecter la maison en détail parce que ça pourrait éventuellement causer de graves problèmes de santé.
Il y a aussi le gouvernement chez nos voisins Trump qui continue à faire ses effets, notamment parce qu'on a entendu dire qu'il allait supprimer le programme de Michelle Obama, celui pour manger plus sain dans les écoles.
Voilà. L'administration Trump avait mis fin à ce programme qui faisait la promotion d'un repas plus sain dans les cantines scolaires, notamment avec moins de sel, moins de graisse et moins de sucre. Le département d'agriculture a expliqué dans un communiqué qu'une réforme donnera aux écoles américaines une plus grande souplesse et évitera aux enfants de jeter les aliments moins appétissants servis dans le cadre de ce programme de santé publique. Le nouveau ministre de l'Agriculture, Sonny... C'est drôle parce que quand on pense au sens français, parce que quand on le prononce en français, ça fait Sonny perdu. Assure même que sans ces règles de nutrition, les enfants mangeront avec plus d'enthousiasme plutôt que de jeter leur repas. Une belle mentalité. Le programme forçait les écoles à adopter de meilleurs standards nutritionnels pour bénéficier de subventions gouvernementales dans le cadre d'une loi adoptée en 2012. Ça faisait partie des accomplissements les plus remarqués de l'ancienne première dame. On rappelle qu'environ un jeune Américain sur 6 âgé de 2 à 19 ans est en surpoids ou obèse, selon les centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies.
Oui. Maintenant, suite à une vague d'overdose, de nouvelles consignes pour diminuer la prescription d'opioïdes antidouleurs. C'est quoi ça, des opioïdes?
C'est tout ce qui est des dérivés... Bon, là, évidemment, le mot m'échappe. Tous les dérivés de la morphine, en fait. Donc, les médecins canadiens sont fortement encouragés à en prescrire moins pour traiter la douleur. Le journal de l'Association médicale canadienne a publié le 8 mai de nouvelles lignes directrices axées sur la prévention des dépendances, des effets secondaires nuisibles et des risques de décès par surdose associés à ces médicaments. Le groupe d'experts recommande d'abord et avant tout de maximiser les traitements non opioïdes avant de passer à ces molécules, que ce soit qu'il s'agisse de traitements pharmacologiques ou non. On pense par exemple à la physiothérapie. Ces recommandations s'appliquent notamment aux patients qui souffrent d'une douleur chronique et non pas à ceux atteints d'un cancer. On suggère aussi fortement aux médecins de limiter la dose quotidienne prescrite lorsqu'un recours aux opioïdes est inévitable. En outre, la prescription d'opioïdes à des patients qui ont déjà souffert d'un problème de dépendance ou à l'alcool ou aux drogues est fortement déconseillée. On note que le Collège des médecins qui travaille actuellement à une révision de ses propres lignes directrices, parce que là, on parle de lignes directrices canadiennes, n'a pas commenté. On note aussi qu'aucun expert québécois, c'est un article du Devoir, là, en passant, qu'aucun article québécois ne figure parmi les auteurs de ces lignes directrices qui ont été publiées pour le moment en anglais seulement. La clinique de la douleur du CHUM, le docteur Aline Boulanger, leur reproche une certaine rigidité. Elle dit qu'elle approuve la nécessité d'une révision, mais que si on s'en tient rigoureusement aux lignes directrices de cet article, ça limite la possibilité de traiter la douleur de certains patients.
Mm-hmm. Donc,
alors, c'est toute une question de gestion du risque versus le soulagement de la douleur.
Oui, on en parlera tout à l'heure de gestion de la douleur avec ce syndrome de fatigue chronique dans quelques instants. Mais avant, votre dernière nouvelle, Christiane Campagna, deux enseignantes ont créé un programme d'éducation à la sexualité qui sera disponible dès septembre.
Oui, ça se passe dans un collège privé de Rigaud. C'est un programme d'éducation à la sexualité sur tablette électronique qui sera disponible dès septembre prochain. La direction a dit que ça s'était manifesté pour eux comme étant un besoin prioritaire, quitte à couper dans d'autres dépenses puisqu'ils n'avaient pas d'aide gouvernementale pour ça. Le retour du cours d'éducation sexuelle, on rappelle qu'il est, malgré un projet pilote, il est encore remis. Mm-hmm. Alors, en 2016, les enseignantes Karen Reilly et Jolaine Lessard, qui est aussi sexologue, ont proposé au Collège Bourget de créer un contenu éducatif basé sur les critères du ministère de l'Éducation. Et elles ont, étant donné le besoin senti, le Collège a débloqué un budget. Et dès septembre prochain, les élèves de secondaire 1 et 2 auront accès à l'information de 5 à 7 heures de cours. Sur la tablette, il y aura des liens vers des sites, des vidéos interactives, des quiz. L'idée, c'est qu'il y a de l'information pertinente sur Internet, mais il y a aussi de la mauvaise. Alors, c'est d'avoir une façon de diriger les jeunes vers la bonne information. Selon la direction, le projet n'a pas suscité d'inquiétude auprès des parents. Par ailleurs, des discussions en classe seront intégrées durant l'année pour s'assurer d'un encadrement.
Peut-être puisque c'est une initiative d'un collège privé, ces enseignantes avaient les portes un petit peu plus libres pour agir.
Probablement, oui. Elles se sont basées sur les recommandations du ministère, mais on avait en effet davantage les coudées franches.
Christiane Campagna, merci beaucoup pour cette revue de presse.
Je vous en prie.
Claudine Prudhomme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là pour nous parler de fatigue chronique, de ce syndrome qui est encore très méconnu. Je dirais aussi une maladie qui est mal comprise et pourtant qui a des répercussions assez sévères dans le quotidien. Vous vivez avec cette maladie, Claudine, depuis 2007. Comment ça s'articule dans votre quotidien?
Ça s'articule une constante évaluation de mon état énergétique en réalité. Alors, c'est sûr que c'est toujours une partie de moi qui faut que je gère mon énergie au quotidien pour pouvoir vraiment accomplir mes tâches, que ce soit mes tâches quotidiennes ou que ce soit mes tâches avec les enfants dans la semaine.
Mm-hmm. Tout est une question de gestion et de dose également. Est-ce qu'il y a des symptômes qui se manifestent de façon plus claire avec le syndrome de fatigue chronique?
Oui, il y a plusieurs symptômes. C'est sûr qu'on a, je dirais, l'épuisement qui est un des premiers symptômes les plus dévastateurs.
Ouais.
Il y a plusieurs autres symptômes. On a les problèmes cognitifs que vous vous avez pu entendre avec moi au début de l'entrevue, difficulté à trouver ses mots, c'est une difficulté à parler, on a des problèmes de difficulté à contrôler notre température corporelle, il peut y avoir des douleurs aussi, ce n'est pas nécessairement toutes les personnes atteintes de syndrome de fatigue chronique qui vont avoir de la douleur. Des symptômes aussi du système nerveux autonome, qui a difficulté au niveau du cœur, etc., tout ça. Alors, c'est beaucoup de symptômes, puis c'est des symptômes qui sont extrêmement sévères aussi, par des cas qui font en sorte que les personnes n'arrivent pas à bien, à fonctionner naturellement, normalement dans le quotidien.
Ouais, c'est un trouble qui est neurologique. Les causes ne sont pas encore connues. Et ce qu'il y a peut-être d'inquiétant ou de frappant avec le syndrome de fatigue chronique ou encore encéphalomyélite myalgique, j'utilise un peu moins ce terme-là parce qu'il est peut-être un petit peu plus ardu, c'est que ça arrive soudainement. C'est quelque chose d'un peu inquiétant, ça, Claudine.
Oui, c'est quelque chose qui arrive soudainement et c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Hein. Souvent, on se dit les gens qui sont super en forme, que c'est des athlètes, les gens ont tendance à dire « bah moi, j'aurais jamais ça, je suis trop en forme, tout ça », mais non, il y a des athlètes vraiment de haut niveau qui se sont... qui ont été atteints de d'encéphalomyélite myalgique et puis qui se sont retrouvés complètement alités, avoir de la difficulté à s'alimenter, etc., tout ça. Alors, c'est vraiment une maladie qui peut toucher n'importe qui. Puis c'est vraiment une maladie qui est mal comprise encore parce que la communauté médicale ne connaît pas les symptômes, la sévérité des symptômes que les gens atteints ont, ne connaissent pas non plus comment faire la prise en charge de ces personnes-là. Alors, il y a un gros manque à ce niveau-là, au niveau de la médecine.
Vous parlez de la communauté scientifique ou communauté médicale, Claudine, mais il y a vos proches aussi qui souvent vont vous dire « Mais voyons, t'as l'air très bien, t'as pas l'air fatiguée, mais ça vous demande énormément de sacrifices. »
Énormément de sacrifices. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités que l'on ne doit, qu'on n'est plus capable de faire. C'est énormément de concessions. C'est sûr que les plus atteints, eux, c'est des concessions extrêmes. C'est-à-dire même une concession à ne pas être capable de prendre sa douche. C'est fou quand on dit qu'une journée, ben moi, je suis trop fatiguée parce que je suis trop épuisée, j'ai pas l'énergie pour aller prendre ma douche. Alors, juste à penser à ça, vous pouvez imaginer toutes les autres concessions qui ont été faites avant de penser à juste ne pas être capable de prendre sa douche. Alors, c'est sûr que c'est une maladie très sévère.
Vous parlez d'impact sur la vie sociale. Il y en a également sur le travail. Vous êtes vétérinaire, Claudine Prudhomme. Est-ce que vous pouvez vaquer à vos occupations professionnelles comme avant?
Absolument pas. Non, non. Du début de la maladie, ça a pris environ 6 mois à peu près, puis j'ai dégringolé assez vite et puis je n'ai plus été capable de fonctionner, de travailler. Donc, c'est impensable pour moi présentement de retourner au travail. Pour moi, juste de pouvoir là organiser les tâches avec les enfants, le repas, les devoirs, tout ça, c'est souvent, même je vais faire d'autres petites activités, mais souvent, cette organisation-là, elle est même souvent à l'excès de mes capacités physiques. Oui. Alors, souvent, j'ai besoin de plats déjà préparés, c'est-à-dire, je m'organise pour, de certaines commissions, certains transports, etc., tout ça.
On comprend que c'est une maladie qui engendre beaucoup de deuil et qui me semble être assez difficile à diagnostiquer.
C'est extrêmement, oui, c'est difficile. C'est sûr que c'est difficile. Ben en fait, c'est les médecins n'ont pas de formation. Le système de santé est complètement déficient face à la maladie. Les médecins ne reçoivent aucune formation à l'université. Alors, comment voulez-vous que les médecins réussissent à diagnostiquer cette maladie-là? Là, je vais être assez sévère ici, là, mais il y a une bonne partie de la communauté scientifiques et du ministère qui font l'autruche présentement. C'est un problème que ça fait longtemps que ça existe. C'est un problème que l'INES, que l'Institut national en excellence de santé et services sociaux, en 2010, avait donné des recommandations au gouvernement pour mettre en place un ou deux centres d'expertise pour les gens atteints parce qu'ils avaient fait une étude et l'étude avait révélé justement qu'il manquait une énorme connaissance de la maladie. Et depuis 7 ans, il n'y a rien de fait encore, là. Alors, c'est sûr que c'est difficile parce qu'il faut, c'est sûr, éliminer tous les diagnostics qui sont associés aux symptômes que la personne atteinte va démontrer. Mais c'est il n'y a pas de structure, il n'y a pas de processus diagnostique d'établi au niveau de la communauté médicale pour que les médecins puissent, à un moment donné, dire, bon, OK, on s'y prend comme ça, pour pouvoir diagnostiquer, et on fait ça. Ça existe, ces centres-là, en Colombie-Britannique. Ça existe un peu partout. Ça existe aussi aux États-Unis. Il y en a qui sont pris en charge. Alors, c'est sûr que les médecins, la seule chose qu'ils vont nous dire, oui, on est atteint, ou une grande majorité, ils vont mettre ça sur le dos de la maladie mentale.
Ouais.
J'ai rien contre la maladie mentale, là. Si j'étais atteinte d'une maladie mentale, je dirais à tout le monde, puis je...
Vous voudriez être soignée, oui.
Exactement, mais ce n'est pas une maladie mentale, c'est une maladie physique sévère avec beaucoup de contraintes.
Oui. Et ça a des conséquences, parce que quand les services ne sont pas là, les gens peuvent se tourner vers des médecines alternatives avec plus ou moins de résultats, aller vers de l'automédication également. D'ailleurs, est-ce que vous devez prendre de la médication, Claudine?
Oui, moi j'ai 5 médicaments quotidiennement que je prends.
Est-ce que c'est une forme... Bon, on comprend qu'on ne soigne pas le syndrome de fatigue chronique, mais c'est une forme de traitement?
Oui, ça l'aide beaucoup. En fait, c'est que j'avais des problèmes au niveau cardiaque à cause du syndrome de fatigue chronique. Donc, j'ai 2 médicaments qui m'aident pour le cœur. J'ai un médicament qui m'aide pour la douleur parce que j'ai eu de la douleur. J'ai un médicament qui m'aide pour dormir. Mm-hmm. Puis, j'ai un médicament qui m'aide pour l'anxiété parce que j'ai eu énormément d'anxiété au début de la maladie.
Oui. Ça amène tellement de bouleversements. On peut très bien le saisir. En terminant, Claudine Prudhomme, on se parle aujourd'hui parce que ce vendredi 12 mai, c'est la journée internationale de l'encéphalomyélite myalgique. Oui. Quelles sont les activités prévues?
En fait, le 12 mai, il va y avoir un cocktail qui va être fait près de... Ben, c'est à l'hôtel... attendez un petit peu, à l'hôtel Saint-Gabriel, qui est proche de l'hôtel de ville de Montréal. C'est un cocktail qui aura lieu vendredi le 12 mai à 9h. Et puis l'hôtel de ville sera illuminé en bleu parce que le bleu représente justement le... c'est la couleur. Le ruban bleu représente l'encéphalomyélite myalgique. Il y aura la tour olympique aussi qui sera illuminée en bleu. Plusieurs personnes vont être à ce cocktail, dont le président, Dr Fabrice Brunet, le président directeur du CHUM, qui va être présent. Il va y avoir aussi la députée de Taillon, Mme Diane Lamarre. Il va y avoir aussi la conseillère de la ville.
Donc,
Mme
c'est une
Monique
façon de sensibiliser les gens à cette maladie, Claudine.
Il faut la sensibiliser les gens. La CAM également va être présente, l'association pour de l'encéphalomyélite myalgique va être présente à l'Assemblée nationale le 11 pour remettre des pochettes pour justement sensibiliser les députés face à cette maladie pour qu'on puisse y avoir un petit réveil.
On laisse le site de l'Association québécoise de l'encéphalomyélite myalgique, d'ailleurs, qui souligne son 25e anniversaire, aqem.org. Oui. Claudine Prudhomme, merci beaucoup de votre temps et de vos lumières aussi sur le syndrome de fatigue chronique.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Agathe Pula-Cabola, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Vous êtes orthophoniste, auteure et directrice générale de la clinique Proaction. Et mais c'est le mois de la parole et de l'audition. On voulait se donner la chance de dresser un portrait de la situation sur les troubles de la parole et de l'audition. Peut-être d'une part parce que, sans qu'on le sache peut-être nécessairement, ça touche pas mal le monde ici au Canada. On pense à une personne sur six qui est atteinte d'un trouble de parole, de langage ou d'audition. C'est beaucoup ça, Agathe, en premier lieu.
Oui, effectivement, c'est énorme, une personne sur six. Souvent, on pense que les troubles du langage, de la parole, de la communication, ça touche davantage les personnes aînées. Oui. Mais il faut vraiment comprendre que ça touche les gens de tous les âges, des individus qui sont en bonne santé également. Donc, tant les enfants que les adolescents, les adultes ou les personnes âgées.
Ça touche donc plein de personnes dans la population de tous les âges et ça a de nombreux impacts. Lorsque c'est pas soigné, d'une part, oui.
Oui, parce que ça crée des situations de handicap dans la vie de tous les jours, des difficultés au niveau de l'intégration dans la société, de l'intégration dans le milieu scolaire, dans le milieu de garde, quand on parle des jeunes enfants d'âge préscolaire, des difficultés aussi qui vont toucher l'estime de soi, la confiance en soi, l'autonomie de façon générale. Donc, ça touche vraiment le développement et l'autonomie de façon considérable.
Il y a même des statistiques qui révèlent que de jeunes qui vivent avec des problèmes de langage pour être plus susceptible de commettre des méfaits à l'âge adulte.
Oui, il va y avoir, en fait, selon certaines études, davantage de criminalité. Donc, on parle de taux d'arrestation plus élevés chez les personnes qui ont une historique de troubles du langage ou de la parole. On parle aussi de problèmes au niveau de l'intimidation. Donc, c'est des gens qui vont être victimes davantage d'intimidation en milieu scolaire ou en milieu de travail. Certaines études vont également révéler davantage de cas de troubles psychiatriques et même de dépression. Donc, ça va au-delà de la communication, ça va vraiment plus toucher un plan psychologique et au niveau de la société également.
Je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à tout le milieu du travail, lorsqu'on entend moins bien ou qu'on a des troubles de la parole, l'employabilité peut être plus complexe.
Oui, tout à fait. On évalue qu'il y a près de la moitié des Canadiens, en fait, on parle de 47 % des Canadiens et des Canadiennes entre 15 et 64 ans, donc on parle de la population qui est active, qui ont une limitation auditive et qui vont être sans emploi. Donc, c'est énorme comparativement à la population qui n'a pas de limitation au niveau de l'audition.
Oui. Il y a encore aussi des tabous, de la stigmatisation qui sont liés aux troubles de l'audition ou encore de la parole et qui peuvent nuire aux personnes qui sont touchées.
Oui. En fait, ce sont des personnes qui vont souvent être malheureusement marginalisées à la base, donc dès l'enfance ou à partir du moment où un événement survient dans la vie de l'individu. Parce qu'en fait, quand on parle de troubles de la communication, il faut savoir que des fois, c'est dès la naissance, donc dès que l'individu vient au monde, mais parfois, c'est acquis après un accident, par exemple, un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânien chez une personne qui auparavant avait des facultés tout à fait dans la norme.
Mm-hmm.
Et les impacts ne vont pas nécessairement être les mêmes, dépendamment de l'âge auquel la difficulté survient.
Oui. J'aimerais ça aussi que l'on parle de tous les tabous liés, par exemple, au bégaiement, Agathe.
Ah oui, il y en a énormément. Souvent, on va penser que les personnes qui bégaient, bon, sont moins intelligentes que la moyenne ou vont bégayer parce qu'elles sont gênées ou parce que ce sont des personnes qui sont introverties, qui ont eu un traumatisme dans l'enfance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le bégaiement peut survenir en fait chez 5 % des individus dans la population et c'est pas en lien avec un traumatisme qui est causé dans l'enfance ou dû à la timidité. C'est vraiment un trouble qui va affecter la neurophysiologie de la parole, donc qui va affecter le mécanisme de la parole, et c'est en grande partie héréditaire. Et ce qu'on sait avec les études, c'est que ça touche beaucoup plus les garçons que les filles. On ne sait pas exactement pourquoi, mais pour une fille, il va y avoir 4 garçons qui bégaient.
Ah, ouais.
Donc, il y a une bonne disproportion entre les sexes.
Oui. Souvent, aussi, un trouble de la parole ou peut-être même encore de l'audition vont être associés à tort, évidemment, au potentiel d'une personne.
Oui.
On va pointer du doigt son intelligence ou sa capacité de réussir.
Oui, alors que c'est seulement la communication qui va être affectée. Les personnes qui ont un trouble du langage, qu'on pense, ou un trouble de la parole, on vient de parler du bégaiement, mais on pourrait également parler d'une dyslexie, un trouble du langage écrit ou d'une dysphasie, qu'on appelle aussi le trouble primaire du langage. Ces troubles-là surviennent chez des personnes qui ont une intelligence dans la norme ou même supérieure à la moyenne.
Mm-hmm. Maintenant, le temps file, Agathe, et je veux absolument que l'on parle de dépistage précoce parce que ce que l'on peut lire aussi lorsqu'on regarde les statistiques qui sont liées à la santé de la communication, c'est qu'un bébé qui a un dépistage très tôt dans sa vie en lien avec un trouble de l'audition va par la suite beaucoup mieux se développer, avoir de meilleures chances pour sa réussite scolaire.
Tout à fait. C'est très important, l'intervention précoce, et c'est démontré par plusieurs études. Plus tôt on intervient auprès de l'enfant, donc plus tôt on dépiste, meilleur c'est et on arrive à des meilleurs résultats au niveau de l'intégration scolaire et sociale. Donc, comment on s'y prend pour dépister tôt? En fait, je dirais que la première chose, c'est de s'écouter comme parent ou comme intervenant quand on a des inquiétudes par rapport à un enfant. En tant que parent, ne pas hésiter à en parler à l'éducateur en garderie ou à l'enseignant si l'enfant est en milieu scolaire. Faire part de ses inquiétudes. Et puis, pour consulter un orthophoniste dans le réseau public, on peut se diriger à son CLSC de quartier ou à l'hôpital pour d'abord obtenir une évaluation des habiletés langagières. Et puis, suite à l'évaluation, l'orthophoniste va être en mesure de déterminer des objectifs précis de plan de traitement et d'intervention. Puis, dans son plan de traitement, en fait, on va inclure des façons, des stratégies pour stimuler le langage dans la vie de tous les jours et on va impliquer le plus possible la famille et les intervenants qui gravitent autour de l'enfant.
Oui. On parle de jeunes enfants, Agathe, mais chez la personne âgée aussi, c'est important. Il y a beaucoup de personnes plus âgées qui commencent à avoir des problèmes d'ouïe et qui vont hésiter avant d'aller consulter ou même apporter leur appareil auditif, même quand ils ont la prescription pour en porter un.
Oui, oui, tout à fait, parce que bon, ça va être un peu une stigmatisation, une marginalisation d'une certaine façon. Si on note qu'une personne âgée de notre entourage tend à s'isoler, qu'elle va essayer de fuir les contextes de groupe, on l'invite à différents événements, elle refuse de venir, ou si on voit qu'elle nous fait souvent répéter, malgré le fait que on est seul avec elle dans la pièce ou qu'il y a moins de bruit dans la pièce, ça, c'est des signes qui peuvent nous permettre de peut-être soupçonner une difficulté au niveau de l'audition.
Ouais. Et de lui suggérer de consulter, bien sûr, un ou une orthophoniste, comme vous l'êtes, Agathe Tupula-Cabola, auteure également et directrice générale de la Clinique Proaction. Merci pour ce portrait.
Merci, Marianne.
Au revoir, à la prochaine, Agathe.
Au revoir.
Et restez pas loin, on se retrouve après la pause. Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé, toujours Marianne Paquette avec vous. Je vous rappelle ce qui s'en vient. Tout à l'heure, on parlera des bienfaits de l'art-thérapie avec Pascal Godbout. Elle travaille à la Société Alzheimer de Montréal depuis quelques années et travaille en art-thérapie, notamment art visuel, auprès des personnes qui vivent avec cette maladie. Mais pour le moment, je joins Josée Rochon, elle est chargée de projet pour Access Plus, oui. Bonjour Josée.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. C'est difficile à dire Access Plus, ce tout nouveau portail qui existe depuis quelques semaines à peine, Josée.
En fait, le projet existe depuis 2015, mais depuis quelques semaines, on est en fait en refonte du projet.
L'objectif est de fournir aux personnes qui vivent en situation de handicap des façons d'aborder la sexualité de façon positive, aussi de détabouiser peut-être la sexualité des personnes en situation de handicap. Bon, vous dites que ça existe depuis 2015. Comment ça s'est créé, ce projet-là, Access Plus?
En fait, Access, c'est une initiative de la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Donc, la Fédération est vraiment un organisme qui travaille en santé sexuelle, en santé reproductive. C'est un organisme féministe. Et puis, il travaille avec des principes de justice reproductive. Donc, vraiment, de s'assurer que tous aient droit au même traitement en matière de santé sexuelle et de santé reproductive. De là, Il y avait une volonté de traiter des clientèles qui étaient peut-être un peu plus négligées. Et parmi cette clientèle-là, il y avait les personnes en situation de handicap.
Mm-hmm.
Donc, également, ben c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources par rapport à cette clientèle-là, pas beaucoup de ressources en français au Québec. Il y a un livre qui existe qui s'appelle « The Ultimate Guide for Sex and Disability », donc un livre en anglais. Et à la base, le projet était une volonté de traduire ce livre-là, de traduire les ressources et de les amener en français. Malheureusement, à cause d'un manque de fonds, il n'a pas été possible de traduire ce livre-là. Et de là a été créé le blog Access Plus. Donc, vraiment, c'est vraiment un portail pour donner des ressources, oui, et comme vous l'avez si bien dit, parler de sexualité de façon positive.
Oui. Le portail veut aller plus loin que de parler de sexualité. On parle aussi d'approche, de relations interpersonnelles, de relations amoureuses. C'est ce que l'on souhaite.
Oui, absolument. Donc, c'est vraiment relations affectives, sexualité, handicap. Donc, on ratisse large, si on veut.
Oui. Est-ce que ça s'adresse, Josée, qu'aux personnes qui vivent en situation de handicap?
Non, en fait, ça s'adresse aussi à l'entourage et même peut-être aux partenaires potentiels qui voudraient s'informer là, à ce niveau-là.
À des parents aussi, j'imagine.
À des parents, effectivement. C'est sûr que pour l'instant, on est en train de revoir un petit peu la mise en place du portail pour que les ressources soient plus faciles à trouver pour chacune de ces clientèles-là.
Mm-hmm. Justement, on retrouve quoi comme contenu sur le portail Access Plus?
Il y a beaucoup de contenu original qui a été créé par le passé, donc des articles de blog qui sont vraiment le vécu d'une personne en situation de handicap. Et sinon, nous, on veut aussi, en fait, partager des outils qui existent déjà. Donc, on republie, en fait, du contenu d'organismes partenaires et d'organismes un peu partout là, à travers la francophonie. Et on a un volet anglophone aussi, donc parfois, on fait de la traduction parce que, comme j'expliquais plus tôt, il y a de ressources en français pour le moment.
Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai entendu parler de vous par une entrevue que vous avez relayée sur Portail Access Plus, celle avec la sexologue Carole Boucher et également le cinéaste Hugo Latulippe. On parlait justement de comment on parle à un pré-ado de sexualité, un ado qui vit avec une déficience intellectuelle. Josée, est-ce que... Justement, vous avez pensé à aller chercher des professionnels de la santé, par exemple des sexologues, pour générer du contenu sur Access Plus?
Oui, pour l'instant, on est en pourparler avec plusieurs personnes. Dans le cadre du programme de sexologie à l'UQAM, il y a des stagiaires qui doivent aller en organisation. Puis, on a rencontré quelques stagiaires qui sont allés dans des organisations qui ont vraiment travaillé avec les personnes handicapées, donc qui ont bâti des ateliers, qui ont bâti des programmes à ce niveau-là. Des espèces de formation. Donc, on est en pourparlant en ce moment pour pouvoir partager ce contenu-là.
Mm-hmm. Quels sont les tabous qui demeurent en lien avec la sexualité des personnes handicapées, Josée Rochon?
Bien, c'est sûr que étant moi-même une personne en situation de handicap, je peux vous en parler. Donc, il y a une espèce d'image que les gens font, on se fait infantiliser, évidemment. Donc, les gens perçoivent souvent les personnes ayant un handicap comme des personnes qui n'ont pas de désir, qui n'ont pas de sexualité. Donc, malheureusement, c'est encore un des grands tabous. Et l'autre, je vous dirais, c'est peut-être de réduire la sexualité des personnes handicapées à l'accompagnement sexuel. Donc, on en a beaucoup parlé dans les médias dernièrement. Oui, c'est une partie de l'enjeu, mais c'est tellement quelque chose qui est plus grand que ça. Et on ne s'adresse pas seulement à une clientèle. Hein, quand on parle de handicap et de sexualité, vous l'avez bien dit, on peut parler de personnes qui ont une déficience intellectuelle, on peut parler de personnes qui ont une déficience motrice, on peut parler de surdité. Donc, les enjeux sont différents par rapport à ces clientèles-là. Puis, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier.
Oui. Je suis contente que vous nous disiez que vous-même, vous vivez avec un handicap, la paralysie cérébrale, parce que j'ai l'impression que souvent, les personnes qui parlent de sexualité pour les personnes en situation de handicap ne sont pas eux-mêmes en situation de handicap. Donc, c'est aussi une façon de se réapproprier notre sexualité en tant que personne handicapée, de parler de notre sexualité tout simplement, tout bonnement. Les gens derrière le portail, il y a vous, Josée, mais est-ce que vous continuez à avoir cette sensibilisation de donner la parole à des personnes qui vivent avec des handicaps?
Bien, absolument. Puis moi, un des premiers constats en fait que j'ai fait quand j'ai pris la charge de projet, c'est que moi, je connaissais les enjeux que moi, avec lesquels moi je vivais, et je m'étais jamais vraiment questionnée sur les autres enjeux par rapport à la sexualité des personnes handicapées. Mm. Puis tout de suite, j'ai réalisé que c'était tellement plus large, il y avait tellement plus grand, puis des choses dont j'avais jamais eu conscience. Donc, c'est vraiment important pour moi et mes collègues d'aller chercher ces points de vue-là et de continuer à peut-être pouvoir en parler. D'ailleurs, s'il y a des gens à l'écoute qui seraient intéressés à collaborer avec nous, à écrire des articles de blog, n'hésitez pas là, à communiquer avec moi. Ça me fera plaisir là, de voir comment on peut collaborer.
Oui. On a parlé des tabous, Josée. Je serais intéressée également de vous demander les obstacles qui sont souvent rencontrés, notamment avec tout l'avènement du web. Maintenant, on crouse, comme on dit, là, sur le web. La personne ne nous voit pas nécessairement dans les premiers temps. Est-ce qu'on lui dit, on lui dit pas? Est-ce que c'est une question que vous vous faites souvent demander, là, comment on peut révéler notre handicap? Est-ce qu'on le fait d'abord?
Oui, absolument. Ben justement, il y a un texte sur notre portail qui a été écrit par ma collègue Aimée, qui vit elle également en situation de handicap. Donc, ce qu'on dit nous, c'est que ça reste vraiment une décision personnelle. Hein. Il y a des gens qui peuvent avoir envie de ne pas révéler ça. Il y a des gens qui peuvent avoir envie de le révéler très tôt. Il y a des gens qui peuvent avoir envie d'attendre un peu qu'un lien de confiance se tisse. Donc, c'est vraiment, on y va avec ce avec quoi on est confortable. Donc, il y a des gens d'emblée que quand ils vont choisir leur photo, ils vont essayer d'en trouver qui démontrent leur handicap. Il y en a d'autres qui, au contraire, vont garder ça pour eux jusqu'à la première rencontre. Donc, c'est vraiment un choix de chacun.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles récurrents que vous pouvez rencontrer?
Bien, c'est sûr qu'au niveau des gens qui ont une déficience motrice, un des obstacles, c'est l'accessibilité. Hein. Quand on veut aller à une date, comme on dit, ben là, il faut s'assurer que l'endroit où on va aller à la date soit accessible, que le transport puisse nous y amener. C'est sûr que ça donne pas une grande flexibilité non plus lorsqu'on est en transport adapté. Donc, c'est effectivement un enjeu qui est vécu par plusieurs d'entre nous.
Oui, oui. C'est intéressant de l'entendre de votre bouche, vous qui vivez ou qui avez vécu avec ce genre de difficultés. Je parlais avec un sexologue dans les dernières semaines, Josée Rochon, il me disait, il faudrait arrêter à un moment donné de dire la sexualité des personnes handicapées. Il me donnait par exemple, il me nommait moi en disant, on ne dit pas la sexualité des animateurs, les animatrices de radio, on ne dit pas les animateurs, on ne dit pas la sexualité des enseignants. On ne parle pas dans ces termes-là. Pourquoi on le ferait avec les personnes en situation de handicap? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous?
Bien, écoutez, c'est sûr que le jour où on va être rendu là, ça va être une belle réussite. Malheureusement, étant donné que justement, il y a encore beaucoup de tabous, il faut démystifier ça, donc on n'est peut-être pas encore rendu là, mais c'est sûr que c'est ce qu'on souhaite, hein, ultimement.
Oui, d'arrêter de souligner à grands traits comme si c'était différent ou extraordinaire ou fantastique, là, finalement. Ouais.
Oui, parce qu'en fait, quand partout, quand on en parle, quand on lit là-dessus, on se rend compte que, bon, on parle de communication, on parle d'adapter aux capacités de chacun. C'est vrai dans toutes les sexualités, hein?
Oui. Oui, oui. En terminant, Josée Rochon, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains mois, pour Accex Plus? Quels seront vos projets d'avenir?
C'est sûr que la priorité dans le court terme, c'est vraiment, comme je disais, de bâtir des collaborations et des partenariats. Donc, encore là, on est vraiment ouvert à ça. On veut recenser les outils qui existent déjà pour pouvoir les partager. Donc, n'hésitez pas, là, si vous êtes dans une organisation, vous avez des outils, n'hésitez pas à nous les partager. Et finalement, quelque chose dont on est très fiers, c'est qu'à partir de l'automne, on va faire une tournée des centres de femmes au Québec avec le projet L'Accord féministe. Donc, on pense que c'est le début de quelque chose de vraiment intéressant pour faire parler du projet et faire parler des sexualités diverses bénéficier de tous et chacun. Éventuellement, idéalement, ça pourrait mener à des collaborations peut-être avec le milieu universitaire, donc de parler aux futurs sexologues, aux futurs intervenants du milieu.
Ah, certainement, on suivra ça de près. On laisse le site web si des gens nous écoutent en ce moment, qu'ils ont envie justement soit de collaborer ou d'aller lire les articles, les ressources qui sont déjà présentes sur AXEX+, fqpn.qc.ca/AXEX. Alors, vous avez ici tous les détails pour en savoir davantage sur cette nouvelle plateforme, en fait, plus ou moins nouvelle, mais je dirais nouvellement connue, Josée Rochon. On pourrait dire ça comme ça.
Oui, donc on espère qu'elle le sera de plus en plus. Donc, on a également une page Facebook du même nom, si jamais vous voulez aller suivre ça.
Josée Rochon, vous êtes chargée de projet pour AXEX+. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bye bye.
Au revoir.
Pascal Godbout, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes art-thérapeute. Vous travaillez depuis quelques années à la Société Alzheimer de Montréal auprès de personnes peut-être plus âgées qui vivent avec cette maladie. Pascal, pourquoi avoir choisi au départ, ou peut-être pas au départ, mais depuis quelques années, la clientèle de personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer?
Je me pose encore la question. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Parce que ça, je l'ai choisi depuis très longtemps, avant même de découvrir l'art-thérapie, que je voulais faire quelque chose avec ces personnes-là. J'étais bénévole avec les petits frères des pauvres. Et ça m'a appelée. Alors, quand j'ai peut-être trouvé une façon de travailler auprès d'eux, dans un domaine que j'aime, c'était le match parfait.
Vous avez une maîtrise en art-thérapie à l'Université Concordia. C'est quoi l'art-thérapie, Pascal Godbout?
Bon, on dit en général que c'est une approche un peu de la psychothérapie ou une modalité thérapeutique qui utilise les arts visuels ou la création en arts visuels dans le processus. Et l'art-thérapie fait un peu comme partie d'une famille de thérapies expressives. Alors, on entend souvent parler de la musicothérapie. À Concordia, il y a aussi le volet en dramathérapie qui utilise le jeu théâtral. Des fois même que les modalités peuvent se toucher ou se chevaucher, parce que si je fais du masque ou de la marionnette, on peut jouer et faire des mouvements ou je mets de la musique. Donc, c'est toujours des approches plus particulières, mais qui fonctionnent très bien avec beaucoup de clientèle.
Oui. Votre spécialité à vous, Pascal, c'est l'art visuel.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites avec les personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer à la Société Alzheimer de Montréal?
Ah, je fais de tout. Autant ma clientèle est variée et pas homogène. Je fais des choses qui peuvent se faire dans un local au centre. On touche à l'aquarelle, l'acrylique. On fait du 3D avec du plâtre, du modelage, beaucoup de collage, parce que le collage est merveilleux et ça peut se faire de plein de façons. Le dessin.
Et lorsque vous disiez que toutes ces formes d'art peuvent être connectées, souvent il y a de la musique lors de vos ateliers d'art visuel.
Oui, la musique, ça met une petite atmosphère. faut pas que ce soit... On parle souvent qu'une... la sursimulation, on veut pas qu'il y ait comme trop de choses qui les distraient, parce que se concentrer, des fois, pour faire des choses toutes simples, va leur demander beaucoup d'énergie. Mais je mets du vieux jazz ou du blues ou de la musique classique, et puis des fois aussi, il y en a qui se mettent à chantonner. L'atmosphère est agréable, c'est un bon moment à passer. Alors, j'aime la musique.
C'est que par vos ateliers, Pascal, il n'y a pas de performance demandée, c'est le plaisir qui est visé.
Oui, oui, absolument. C'est bien dit comme ça. Il faut pas avoir d'attente particulière. Et puis, s'il y en a qui ont des... C'est plus les gens qui arrivent avec leurs propres critères d'esthétisme et tout ça. Mais moi, je m'assure de... Enfin, il faut pas qu'on soit devant l'échec. Il faut que tout ça soit un succès et que ce soit valorisé. Puis on y arrive.
Travailler avec une clientèle, on le dit depuis le début de cette discussion, qui vit avec une maladie qui est dégénérative, qui est assez sévère, du moins ça dépend à quelle phase où on se trouve de cette maladie. Est-ce que ça vous arrive d'être confronté ou de rencontrer une personne qui est en perte d'acquis, c'est-à-dire le ciseau, elle ne sait plus comment tenir le crayon non plus?
Oui, oui, c'est sûr que c'est merveilleux ce que je fais, mais que peut-être arrive un moment où, il y a des termes précis, là, on parle d'apraxie, enfin, l'usage, les gestes, c'est les plus simples, on ne sait plus quoi en faire. À un certain moment, je ne suis plus une solution pour avoir un bon moment ou aller mieux quand on a la maladie, mais c'est surprenant quand même de voir... des fois, qu'est-ce qui peut être fait, ou trouver la façon, si j'initie le geste, ou des fois, quand on peut imiter mon geste, des fois, avant d'abandonner, finalement, on va tout essayer.
Oui. Et avant d'abandonner, il y a des bienfaits aussi, Pascal Godbout, à l'art-thérapie pour les personnes qui vivent avec cette maladie. Quels sont-ils, ces bienfaits?
Bon, ça fait général quand on dit que c'est bon pour le bien-être, mais quand on vit avec cette maladie-là, d'abord, il y a une personne avant la maladie, mais cette personne-là, elle vit des pertes qui sont pas faciles, on est désorienté, on sait pas ce qui nous arrive, on fait plus ce qu'on faisait. Donc bon, alors, on peut être un peu triste, on peut être anxieux. Alors, à ce niveau-là, je pense qu'il y a des bienfaits, parce que comme c'est le moment présent qui compte et qu'on se ramène dans le présent et que, somme toute, il y a des choses qui se font, qui se font bien et qui sont belles, parce qu'on a un résultat physique aussi, on a un résultat devant soi, comme quand on n'a pas de mémoire à long terme, ça peut beaucoup aider. Mm-hmm. Il y a plein de façons c'est comme des émotions qui sont positives, qui restent là et qui font du bien. C'est par la stimulation aussi, on parle beaucoup de stimuler. Alors, il y a le contact avec l'autre, le contact avec moi, les autres participants du groupe. On est stimulé au niveau cognitif parce qu'on se concentre. Alors, toute stimulation aussi permet de maintenir et de préserver la personne comme elle est, de préserver ses capacités. Alors, c'est gagnant-gagnant.
C'est une façon aussi, l'art visuel, de communiquer lorsque la parole devient plus complexe.
Oui, parce que c'est plein de métaphores, c'est plein de symboles. On exprime, oui, les gens, des fois, expriment, c'est très émotionnel ou c'est très expressif. Et aussi, des fois, ils se racontent. Et des fois aussi, ils illustrent des choses de leur vie. C'est plus dans la narration. Oui, c'est vrai que on peut dire plein de choses avec les images qu'on ne peut plus dire.
Ouais. Qu'est-ce que les œuvres peuvent révéler? Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir une surprise, ou peut-être même que le participant a une surprise parce que ça lui amène des souvenirs du passé?
Ah oui, il y a de la réminiscence. C'est une bonne question. En général, quand je suis surprise, c'est quand je constate que la personne, elle exprime des choses positives, ou il y a de l'humour, c'est pas toujours lourd comme les gens ont tendance à penser. Il y a des petites surprises très agréables dans ce sens-là, et des fois aussi des détails très précis. C'est assez précieux, puis c'est pas obligé d'être absolument fidèle à la réalité, mais on sent que une petite flamme dans les yeux, Et bien, ça fait sourire.
J'imagine que c'est une façon aussi de partager, parce que lorsque l'on revient avec un collage, un dessin, une toile, une peinture, on peut partager à nos proches lorsqu'ils viennent nous visiter. Regarde ce que j'ai fait. Ça devient concret. Ça peut être un moment de partage aussi.
Oui, en plus d'un moment de fierté. Ouais. C'est vrai que... j'essaie d'inculquer là aux proches que... Il y a plusieurs façons de considérer les résultats de ce qui se fait. C'est pas forcément être prêt pour aller au musée, mais c'est comme un résultat concret qui veut dire quelque chose et qui est le résultat aussi de... Bon, la personne, elle a fait quelque chose, elle a fait des choix, elle a pris des décisions, il y a une intention, et ça, c'est très précieux parce que les zones de la vie où on prend les choix, où on est acteur, finalement, de ce qu'on vit, bon, il y en a moins. Alors, je pense que ça fait aussi... Alors, c'est pour ça que les vernissages que j'organise chaque année ont du succès, parce que tout le monde est invité à voir les choses sur les murs. C'est très beau, d'ailleurs. Je pourrais envoyer le lien pour notre vernissage de cette année qui vient.
Oui, bien sûr. Pour en savoir davantage aussi, on peut aller sur eisheimer.ca. En terminant, Pascale Godbout, on a parlé, bien sûr, beaucoup de l'art-thérapie pour les personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, mais ça peut convenir à d'autres types de clientèle, l'art-thérapie.
Pour tout le monde, absolument. Autant de raisons de voir un psychologue ou de consulter en psychothérapie. On peut aller en art-thérapie si en plus on sent que... vous savez, on se censure vraiment moins par le dessin que par la parole. Alors, ça peut être très intéressant de peut-être faire un suivi en art-thérapie si on a envie d'aller plus loin ou de résoudre des problèmes.
D'ailleurs, l'Association québécoise des art-thérapeutes propose la ruche de l'art. C'est le 19 mai en après-midi, enfin entre 16h et 20h. Et c'est une invitation à participer gratuitement à un atelier de partage et de création. On pourra glisser également les ressources sur notre site web. Et pour votre part, Pascale Godbout, vous travaillez comme art-thérapeute du côté de la société Alzheimer de Montréal. Ça a été un plaisir de vous entendre sur tous les bénéfices que ça peut apporter à vos usagers et probablement semer énormément, de fierté et de bonne humeur lors de vos ateliers. Merci, Pascale.
Bien, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Dernier segment de cette émission, je vous partage toujours un petit coup de cœur. Et cette semaine, le plaisir que j'ai à lire ce livre d'Isalou Baudet-Regan, « La magie du matin, l'heure de plus qui va changer votre vie ». Pourquoi ça me plaît autant, cette lecture? Bon, premièrement, c'est tout simple. C'est une lecture comme j'appelle bonbon, une lecture qui fait du bien. Et ça convient à l'oiseau de nuit que je suis, la couche tard, qui se couche bien souvent trop tard, et qui se lève un peu, parfois de mauvaise humeur, à courir sans cesse après mon temps. C'est un livre qui s'adresse aux personnes qui ont toujours l'impression de manquer une heure dans leur journée, qui auraient besoin de 25 heures au lieu de 24. Isalou Baudet-Regan, elle propose de, finalement, se coucher plus tôt pour se lever plus tôt, une heure plus tôt seulement, donc de reculer le cadran de 60 minutes et d'accorder ce temps, cette heure à soi-même, seulement soi, pour une activité. Vous savez, quand on dit « Ah, j'ai pas le temps », mais cette activité-là dont on n'a jamais le temps, c'est-à-dire se mettre à la peinture, méditer, faire de l'exercice, écrire, de se réserver ce temps qu'à nous. Donc, le livre est parsemé de trucs pour y arriver, mais également de témoignages, d'interviews de personnes parfois très connues, Christophe André, Marc Lévy, que l'on connaît bien comme auteur. Donc, des gens que l'on suppose être assez occupés dans la vie et qui ont intégré cette petite routine à leur vie pour justement arriver à faire plus de choses. Mais il y a également des interviews avec des gens issus du grand public, là, comme j'aime le nommer, autant des salariés, des contractuels, de jeunes parents, des étudiants, des personnes plus âgées. Donc, à savoir comment ils organisent leur matin. C'est une façon aussi de s'inspirer de ces routines-là. Parfois très simple, faire un peu d'exercice. Qu'est-ce que les gens mangent le matin pour déjeuner, pour démarrer cette journée? Donc, c'est un peu aussi sous forme d'enquête, des outils, des programmes de routine matinale qui sont adaptés finalement à tous les profils et qui peuvent faire du bien justement à l'humeur, là, pour les personnes un petit peu plus de mauvaise humeur comme moi le matin, mais aussi pour se donner plus de temps et plus de temps de qualité à soi pour se réaliser et s'épanouir. Ça s'appelle « La magie du matin, l'heure de plus qui va changer votre vie » et c'est aux éditions de l'Homme. Voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de « C'est bon pour la santé ». Merci d'avoir été des nôtres. Je remercie également Rémi Hermoso à la mise en onde de cette émission. C'est Christiane Campagna aux médias sociaux et à la revue de presse. Sylvie Rivard, oui, à la recherche. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 17h. Vous pouvez entrer en communication avec nous par différents moyens. Par téléphone, c'est le 1-800-361-0635, poste 220. On est également bien présents sur Twitter et sur Facebook. Manifestez-vous. On aime vous entendre. On aime vous lire. Notre site canalm.vusezvoix.com. Je suis Marianne Paquette. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye-bye.